إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد On continue donc ce soir l'étude des trois fondements du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dans le dernier cours, on a vu le premier point de la deuxième partie de l'introduction, dans lequel le Shaykh rahimahullah nous a exposé et nous a démontré l'obligation de l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on va voir le deuxième et le troisième point, incha'Allah ta'ala, qui sont l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala, et de s'allier, de se désavouer en fonction de cela. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit, « Al-thaniya » أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Il dit رحمه الله la deuxième chose, c'est-à-dire la deuxième chose qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre et de mettre en pratique. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé dans son adoration, pas même un ange rapproché, ni même un prophète envoyé. Ceci est donc la deuxième question qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre et de mettre en pratique. Et cette question porte sur l'adoration, et que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis de la vouer à autre que lui. Et lorsque cette adoration, elle est mélangée au polythéisme, elle est mélangée au shirk, alors elle n'est pas acceptée, mais elle est rejetée. Car il est obligatoire qu'elle soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, quiconque adore Allah subhanahu wa ta'ala et adore avec Allah autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors son adoration est nulle, son adoration est vaine et elle est rejetée. Car l'adoration, elle ne peut être profitable pour son auteur que si elle est accompagnée d'al-ikhlas. La sincérité, le culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid. Et si elle est mélangée au shirk, si elle est mélangée au polythéisme, alors elle est corrompue et elle est vaine. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 65 de la sourate Az-Zumar, « Wa laqad uhiya ilayk, wa ila alladhina min qabrik, la in ashrakta » لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également, dans le verset 88 de la sourate, الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et s'ils donnaient des associés à Allah, alors tout ce qu'ils ont œuvré aurait été vain. Ainsi, l'adoration, elle ne peut être profitable que si elle est accompagnée du tawhid, que si elle est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que la prière, elle ne peut être valide et acceptée que si tu accomplis tes ablutions. Si tu accomplis une prière sans faire les ablutions, il n'y a pas de doute que cette prière, elle sera invalide et rejetée. Ainsi, celui qui prie alors qu'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière, son adoration, elle est corrompue et elle est invalide et elle est vaine et rejetée. Ainsi, celui qui prie sans ses ablutions, sa prière, elle est invalide. Et celui qui prie alors qu'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le shirk, a interdit le polythéisme, et ce à de nombreuses reprises dans son noble livre, alors celui-ci, ses adorations sont vaines et elles sont nulles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, qui est rapporté d'après Abu Hurayra dans le recueil authentique de l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. » Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre, en me donnant un associé dans celle-ci, je le délaisse lui et son association. Je le délaisse lui et son association. Il y a des gens qui prient, qui viennent dans les mosquées, qui jeûnent le mois de Ramadan. Ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Et ils multiplient les adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils jeûnent, ils accomplissent le pèlerinage, mais en parallèle de cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent les morts, ils se rendent dans les tombeaux et se frottent à eux recherchant la bénédiction et cherchant à se rapprocher du mort qui y est enterré. Ils invoquent Al-Hassan et Al-Hussein et ils invoquent d'autres qu'eux parmi les gens pieux ou les gens moins pieux. Ils recherchent le secours auprès des morts. Ceux-là, leurs adorations, elles sont vaines. Leurs adorations, elles sont vaines et invalides, car ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mélangé leur adoration qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala au polythéisme, en vouant des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs œuvres, elles sont donc nulles. Leurs œuvres, elles sont vaines. Et ce, jusqu'à ce qu'ils vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne l'adorent que lui, et qu'ils délaissent l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est donc obligatoire de prêter attention à cela, car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas qu'on lui donne des associés dans son adoration, qui qu'il soit, comme l'a dit l'auteur, rahimahullah, pas même un ange rapproché, ni même un prophète envoyé. Le meilleur des anges, qui est Jibril alayhi salam, et qui est l'ange le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a le degré le plus éminent et le rang le plus éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un lui vouait une quelconque adoration, alors son œuvre serait rejetée, et toutes ses œuvres également, car il aurait donné ainsi un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, un prophète envoyé, le meilleur des prophètes et le meilleur des messagers, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis de lui vouer une quelconque adoration, ni de l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme Isa alayhi salam, Nuh, Ibrahim, Moussa alayhi salatu wa salam. Tous les prophètes et tous les messagers alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on leur voue une quelconque adoration, ni au meilleur des anges, ni au meilleur des hommes. Alors que dire d'autre qu'eux? Que dire d'autre qu'eux parmi les gens pieux et autres qu'eux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on leur voue une quelconque forme d'adoration et qu'ils soient pris en tant qu'associés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là qui vouent des adorations aux gens pieux, qui vouent des adorations au tombeau, qui se rendent pour accomplir le tawaf autour des tombes, des gens qu'ils prétendent être rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils prétendent que les adorés les rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sont leurs intercesseurs auprès d'Allah. Tout cela, leurs adorations sont vaines, leurs adorations sont nulles, même s'ils prient pour Allah matin et soir, même s'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala à longueur de journée, même s'ils multiplient les jours de jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils accomplissent le pèlerinage chaque année, toutes leurs œuvres sont rejetées à partir du moment où ils ont voué une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc faire attention à cela et donner de l'importance au tawhid, au fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui donne des associés. Et on verra l'importance du tawhid dans le prochain cours, dans la troisième partie de l'introduction. Le shaykh, l'auteur, rahimahullah, a réservé un passage à cela dans lequel il démontre que le tawhid est la chose la plus importante, et on verra cela lors de la prochaine assise, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wa dalil, et la preuve. Comme on l'a dit, le cheikh, rahimahullah, il n'évoque pas une question sans en donner la preuve. Soit du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, tout au long de ce livre. Il a donc dit, rahimahullah, wa dalil, qawluhu ta'ala, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Et la preuve, c'est-à-dire la preuve qu'Allah n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé dans son adoration. La preuve, c'est la parole d'Allah, selon la traduction des sens rapprochés. Et les masajid sont consacrés, réservés à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Les masajid, les mosquées, ce sont les maisons d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les endroits réservés à la prière et à l'adoration. Et ce sont les lieux les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Il est donc obligatoire que ces masajid, ces mosquées, soient réservés à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne lui donner aucun associé. Il n'est pas permis dans ces mosquées de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, il n'est pas permis que ces mosquées, elles soient construites sur des tombes ou sur des tombeaux. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celui qui fait cela. Et il nous a informé que ceci fait partie des œuvres des juifs et des chrétiens. Et il nous a interdit cela à la fin de sa vie, alors qu'il était à l'approche de la mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: certes, ceux qui étaient avant vous ont pris les tombes comme mosquées, comme masajid. Il dit cela alors qu'il est à l'approche de la mort, aux affres de la mort. Ne prenez pas les tombes comme mosquées, car je vous interdis cela. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Jundub, radiyallahu ta'ala anhu. Et dans un autre hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme masajid, c'est-à-dire comme lieu de prière, comme lieu d'adoration. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, ainsi que Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. On voit donc qu'il est obligatoire que les masajid soit purifié de toute forme de polythéisme et de toute forme d'idolâtrie. C'est pour cela qu'ils ne doivent pas être construits sur les tombes. Et il n'est pas permis également que les morts soient enterrés dans les mosquées après qu'elles aient été construites. Car, comme on l'a dit, les mosquées, elles sont réservées à l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. C'est dans les mosquées que l'on accomplit la prière. C'est dans les mosquées que l'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on lit le Coran. Et c'est dans les mosquées également que sont tenues des assises de sciences, des assises de sciences profitables, de sciences religieuses. C'est dans les mosquées que l'on accomplit l'i'tikaf afin de multiplier les adorations vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cela que servent les masajid. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit: wa anna al-masajida lillah, Les masajids sont réservés à Allah et ne sont pas pour autre que lui. Car les mosquées sont l'endroit où les gens se réunissent. Pourquoi ? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire que les masajids soient purifiés de toute forme de shirk, de toute forme de polythéisme, mais également de toute forme d'innovation. Car les gens, ils se rendent à la mosquée pourquoi ? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi pour apprendre la science religieuse. Ainsi, s'ils se rendent dans les mosquées et qu'ils voient une forme de polythéisme qui est pratiquée, ou certaines innovations qui sont pratiquées, ceci va avoir de l'influence sur les gens qui fréquentent cette mosquée. Et ils vont propager cela autour d'eux. Ainsi, il est obligatoire que les masajids soient purifiés de toute forme de polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit « Wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. » Les mosquées sont réservées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. C'est-à-dire, ô vous les gens qui vous rendez dans les masajids pour vouer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceux qui disent « Ya Allah, Ya Muhammad ». En disant cela, ils invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou d'autres disent « Ya Abdel Qadir ». En visant Abdel Qadir al-Jailani, qui était un homme pieux, rahimahullah, et qu'ils ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que lui est innocent de cela. Ils invoquent donc autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah n'agrée pas cela et n'accepte pas cela d'eux. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez personne avec Allah. Personne ici, cela englobe tout le monde, les anges, les prophètes, les pieux, les arbres, les pierres ou toute autre chose qui peut être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset, il nous prouve donc que l'adoration, elle ne peut être profitable que si elle est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle est mélangée au polythéisme, alors elle est vaine, elle est nulle et elle sera source de peine et de regret pour son auteur. Également, parmi les bénéfices que l'on tire de ce verset, « Wa anna al-masajida lillah », les mosquées sont réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bénéfices que l'on tire de ce verset, il y a le fait qu'il est obligatoire que ces masajids soient construits avec une bonne intention à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui participe à la construction des masajids, à la construction des mosquées, d'une quelconque manière, il ne doit pas faire cela par ostentation. Il ne doit pas faire cela pour que les gens se rappellent de lui après sa mort. Il ne doit pas faire cela en recherchant les éloges des gens, mais il doit faire cela exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également ces mosquées, elles doivent être construites avec de l'argent bon, de l'argent pur, obtenu de manière licite. Ils ne doivent pas être construits à partir d'argent qui a été obtenu illicitement, car Allah subhanahu wa ta'ala est bon et il n'accepte que ce qui est bon, comme il est venu dans le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam muslim. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas que l'on construise les mosquées, par exemple, avec l'argent des riba, avec l'argent des intérêts, comme le font certaines personnes qui font des crédits pour construire des mosquées. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cela, car il n'accepte que ce qui est bon. Il est donc obligatoire que les masajids, ils soient construits avec une bonne intention, voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, en ne recherchant que la satisfaction d'Allah et non les éloges des gens. Et il est obligatoire qu'ils soient construits avec de l'argent licite, avec de l'argent halal obtenu de manière légiférée. Ceci est donc le deuxième point qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre et de mettre en pratique. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé dans son adoration. Ensuite, l'auteur, il a dit, rahimahullah, Al-thalitha, anna man ata'a al-rasul, wa wahhada Allah, la yajouzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah, wa lo kana aqraba qarib. La troisième chose qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre et de mettre en pratique, c'est que quiconque obéit au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première question qu'on a évoquée, celle qu'on a évoquée la semaine dernière. Wa wahhad Allah, et vous un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la deuxième question que l'on vient de voir. Il ne lui est pas permis de prendre pour allié quiconque s'oppose à Allah et à son messager, même s'il fait partie de ses plus proches parents. Il n'est pas permis donc pour quiconque a mis en pratique la première et la deuxième question que l'on a vue. C'est-à-dire quiconque obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui est pas permis de prendre pour allié ce qui s'oppose à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils font partie de ses plus proches parents. Cette question est donc liée à l'alliance et au désaveu. Et ceci est lié au tawhid, ceci est lié à l'unicité, car cela fait partie des choses imposées par le tawhid. L'alliance, al-wala, l'alliance aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le désaveu, al-bara'a, le désaveu des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est visé par l'alliance, c'est l'amour. L'amour qui est dans le cœur, et également le soutien, l'entraide, le secours, etc. Le musulman, il s'allie seulement avec les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les croyants. Et son amour, il est restreint à qui? Il est restreint aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la personne est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu dois l'aimer dans ton cœur, car il fait partie des gens qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il est allié des musulmans, et il n'est pas allié aux ennemis de l'islam, aux ennemis de la foi, aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Mais son alliance, elle est seulement pour les gens de la foi. C'est-à-dire qu'il ne s'allie pas aux mécréants. Il est donc obligatoire pour les croyants de se distinguer des mécréants. De se distinguer d'eux dans l'adoration premièrement, mais également dans l'accoutrement, etc. Et il n'est pas permis pour quiconque obéit à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre pour allié ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même s'ils font partie de ses plus proches parents. C'est-à-dire qu'il y a un lien de parenté avec eux. Si un de tes proches parents s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, il est donc obligatoire pour toi de t'opposer à lui. Il est obligatoire pour toi d'aimer et de t'allier à quiconque aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, même si c'est une personne lointaine avec laquelle tu n'as aucun lien de parenté, même si c'est un étranger, qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit du fin fond de la terre, du fin fond de l'Occident ou de l'Orient, même s'il n'est pas de ton pays, à partir du moment où il est croyant, qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, il est obligatoire pour toi de le prendre pour allié. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd » Les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Et ceci est le verset 71 de la sourate At-Tawbah. C'est-à-dire que les croyants et les croyantes, entre eux, ils s'aiment. Entre eux, ils se soutiennent, ils se secourent. Entre eux, ils s'entraident. Et entre eux, ils ont de la compassion. Ceci est donc entre les croyants. Il est obligatoire pour le croyant d'aimer les croyants, même si ce sont des gens lointains, même si ce sont des gens étrangers, même si ce sont des gens que tu ne connais pas, le croyant doit avoir une place prééminente dans ton cœur, car il aime Allah subhanahu wa ta'ala et il aime son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet, il y a de nombreuses personnes qui tombent dans l'erreur. Il y a des gens qui disent « Celui-ci, il a la barbe, mais il n'est pas honnête, il ment, etc. » L'autre, il est mécréant, mais au moins il est honnête dans ses transactions. Il ne ment pas, il ne trompe pas. Comme s'il voulait donner prééminence à ce mécréant qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, à cet homme croyant qui a commis quelques péchés. Ceci est une grave erreur. Le musulman, il donne la prééminence au musulman même s'il commet certains péchés. Il doit préférer les croyants à tout autre qu'eux. Le shir rahimahullah ta'ala, il a dit ensuite « وَالدَّلِيلْ قَوْلُهُ تَعَالَى » La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. « لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » Tu ne trouveras pas un peuple parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prend pour ami ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ce discours, ici, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit qu'il n'est pas possible qu'il trouve des gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam et qui aiment les mécréants. Car s'il aime les mécréants et qu'il les aime pour leur religion et qu'il trouve que leur religion est bien, alors il n'est pas croyant, même s'il prétend cela. Celui qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala et qui prétend aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est obligatoire pour lui quoi ? D'avoir de la répulsion pour ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous prouve ce verset. Il nous prouve que le fait d'aimer un mécréant, cela s'oppose à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela s'oppose à la foi au jour dernier. Soit à la base de la foi, c'est-à-dire que la personne, elle sort complètement de l'islam, soit à la perfection de la foi. C'est-à-dire que la personne qui aime ses mécréants, il est possible qu'elle les aime d'une manière à diminuer sa foi et à lui retirer, à lui faire perdre la perfection de sa foi tout en restant musulman. Cependant, si cet amour, il est accompagné du soutien pour leur idéologie et du soutien pour leur mécréance et de préférer leur religion à la religion de l'islam et à vouloir que leur religion, elle prenne le dessus sur la religion de l'islam, alors ceci fait sortir de la religion. Ceci fait sortir de l'islam. Quant au fait de les aimer sans les secourir, sans leur donner le dessus sur les musulmans, alors ceci est considéré comme un manque dans la foi, comme une perversion, et celui qui fait cela est considéré comme ayant la foi faible. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, « وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ » Même s'ils sont leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. « أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ » Cela, il a prescrit la foi dans leur cœur. C'est-à-dire, ceux qui s'éloignent des mécréants et qui s'éloignent de ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Allah a raffermi la foi dans leur cœur. Et il a enraciné dans leur cœur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa ayyadahum bi ruhin min. Et il les a aidés de son secours. C'est-à-dire, que ici-bas, il leur a donné la force de la foi. Il leur a donné la force de la foi. Et dans l'au-delà, وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. C'est-à-dire qu'ils entreront au paradis et ils n'en sortiront pas. Une fois au paradis, ils n'auront pas peur de la mort. Ils n'auront pas peur que quelqu'un les en sorte ou les en expulse, comme est la situation de l'homme dans ce bas monde. Dans ce bas monde, il est possible qu'une personne se trouve dans des châteaux, mais il n'est pas à l'abri de la mort. Aujourd'hui, il est dans ses châteaux, et demain, il va mourir. Il est également possible que des ennemis prennent le dessus sur lui, ou qu'il perde ses châteaux et qu'il perde ses biens dans ce bas monde, alors que dans l'au-delà, celui qui entre au paradis, il ne connaîtra plus cette peur, car il y vivra éternellement, bi-idhnillahi ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, radiyallahu anhum wa radu an. Allah les agrée et il l'agrée. C'est-à-dire, lorsqu'ils se sont opposés à leurs proches parents, à cause de leur mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné quoi ? Il leur a donné son agrément. Et il n'y a pas mieux que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala comme rétribution, leur récompense, et qu'ils obtiennent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les agrée et il l'agrée. Oulaika hizbullah. Ceux-là sont le parti d'Allah, c'est-à-dire le groupe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux mécréants, ils sont le parti du diable, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans la même sourate au verset 19, oulaika hizbush shaytan. Ceux-là sont le groupe, les partisans, le parti du diable, car ils ont délaissé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ala inna hizballahi humul muflihun. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Ils réussissent pourquoi ? Car ils obtiennent le succès dans l'au-delà. Ils entreront au paradis pour y demeurer éternellement. Cette question, elle est donc liée à l'animosité et la répulsion que doit avoir le croyant envers les mécréants et le fait qu'il ne doit pas les prendre pour alliés. Cependant, ici, on va souligner quelques points très importants. Il faut savoir que lorsqu'on dit que le musulman ne doit pas s'allier aux mécréants, cela ne signifie pas qu'il doit couper tout lien avec les mécréants. En effet, il y a des choses dans lesquelles il y a des intérêts, que ce soit des intérêts mondains ou des intérêts religieux. Il y a donc quelques exceptions à cette règle. Et on va en citer quelques-unes, incha'Allah ta'ala. Parmi les exceptions à cette règle, il y a le fait qu'il est obligatoire pour le musulman d'appeler les mécréants à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il les appelle à l'islam. Il les invite à embrasser l'islam en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et qu'ils acceptent cette religion. Deuxièmement, il n'y a pas de mal pour les musulmans à faire des pactes avec les mécréants lorsque cela est nécessaire. Lorsque les musulmans ont besoin de cela, il n'y a pas de mal à ce que le gouverneur musulman fasse un pacte de paix avec les gouverneurs mécréants. Il fait un pacte temporaire de paix durant un certain délai et ceci revient donc au gouverneur des musulmans qui évalue cela selon les intérêts de la communauté. Troisièmement, il n'y a pas de mal également à être reconnaissant envers un mécréant qui a été bienfaisant envers toi. Il n'y a pas de mal à être bienfaisant et reconnaissant envers un mécréant qui a été bienfaisant envers toi ou envers les musulmans. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 8 de la sourate Al-Mumtahana, « La yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din » ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Le quatrième point, il concerne les parents mécréants. Il est obligatoire pour l'enfant musulman qui a des parents mécréants, d'être bon envers eux. Cependant, il ne doit pas leur obéir dans la mécréance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 15 de surat Luqman, « Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. » Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais tiens-toi avec eux ici-bas de façon convenable. Méditez sur cette parole. Mais tiens-toi avec eux ici-bas de façon convenable. Donc ceci nous montre le droit important, le droit immense qu'ont les parents sur leurs enfants. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de parents qui ordonnent à leur enfant quoi ? De lui donner des associés. Le pire des péchés, la pire des choses et la plus grave des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. La chose que celui qui meurt après l'avoir accompli sans s'en repentir, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. C'est le plus grave des péchés. Malgré cela, Si les parents t'ordonnent de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'Allah nous a dit? Ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas dans cela. Mais tiens-toi avec eux ici-bas de façon convenable. De façon convenable. Ceci nous montre donc le droit immense des parents, même s'ils sont mécréants. Même s'ils sont mécréants, tu te dois d'être reconnaissant envers eux pour l'éducation qu'ils t'ont donnée. Et ce parce qu'ils sont tes parents et qu'ils ont un droit immense sur toi. Cependant, tu ne leur obéis pas dans la mécréance. Tu ne participes pas avec eux à leurs fêtes qui sont liées à leur religion de mécréance ou autre. Mais tu es reconnaissant et bienfaisant envers eux et tu leur montres en faisant cela que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ordonné d'accomplir cela. Cinquièmement, parmi les choses qui sont permises, le fait d'avoir des échanges commerciaux avec les mécréants. C'est-à-dire que l'on vende, que l'on vende des choses ou qu'on achète de des choses, qu'on importe leurs marchandises ou autres. Il n'y a pas de mal en cela. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des transactions avec les mécréants. Également, il avait employé les gens de Khaybar, alors que c'était des juifs, afin qu'ils cultivent une terre en échange d'une partie de la récolte. Et ceci n'est pas une forme d'alliance aux mécréants. C'est juste un échange d'intérêts. Il est donc obligatoire que l'on fasse la distinction entre ces choses et que l'on ne considère pas comme de l'alliance ce qui n'en est pas et ce qui n'est pas interdit. Également, il est permis d'emprunter de l'argent aux mécréants. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a acheté à un juif de la nourriture et lui a laissé en gage son armure. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort alors que ceci était encore auprès de ce juif pour de la nourriture qu'il avait achetée pour sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc pas de mal en cela, car ceux-ci font partie des affaires mondaines et ce sont des choses que la religion nous a permis qui n'impliquent pas l'amour de leur religion ni de la compassion pour leur religion. Il est donc obligatoire de distinguer entre ceci et cela. Car il y a des gens, dès qu'ils écoutent les textes que l'on vient de mentionner, le fait que le musulman il ne doit pas aimer le mécréant, qu'il doit s'opposer au mécréant, qu'il ne doit pas s'allier au mécréant, il croit qu'il doit couper tous les liens avec les mécréants. Il croit qu'il doit être dur avec eux, que lorsqu'il les voit, il doit avoir le visage rude. Et ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il leur montre une mauvaise image de sa religion. Tu dois donc distinguer entre les choses qui sont permises et les choses qui sont interdites. Sixièmement, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis, le fait que le musulman se marie avec une femme des gens du livre, et ce à condition qu'elle soit chaste. Et ce à condition qu'elle soit chaste. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis aux musulmans de manger de quoi? De manger de la viande sacrifiée des gens du livre. Cependant, il est important d'attirer l'attention de tous ici sur un point. C'est le fait que la viande des gens du livre est permise à condition qu'ils les sacrifient de manière légiférée. C'est-à-dire qu'ils aient égorgé l'animal et qu'ils aient mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, on sait tous que dans les abattoirs, les bêtes ne sont pas tuées ainsi. Dans la plupart du temps, elles sont tuées par l'électricité ou par le matraquage ou autre. Donc, c'est une erreur de dire « Je suis dans un pays des gens du livre, donc c'est bon, je peux acheter ma viande chez n'importe quel boucher. » Ou comme certains, comme on a entendu de certaines personnes, « Wal'iyadu billah, le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala » qui se rendent dans certains restaurants, dans certains fast-foods qui sont tenus par des non-musulmans et dans lesquels la viande n'est pas de la viande halal, la viande n'est pas de la viande licite, sous prétexte qu'il est permis de manger la viande des gens du livre. Et la viande des gens du livre est permise sous certaines conditions. Est-ce qu'ils l'ont sacrifiée de manière légiférée? Si tu ne sais pas et que tu n'as aucun doute, la base est que c'est sacrifié ainsi. Tu ne dois pas te poser la question. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. On sait très bien que ce n'est pas le cas et on sait très bien comment cela se passe dans leurs abattoirs. C'est donc pour ça qu'il faut faire attention à cela. Septièmement, parmi les choses qui sont permises également, le fait de répondre à leur invitation et de manger de leur nourriture licite. De manger de leur nourriture licite, comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à condition, bien sûr, qu'il n'y ait que des choses licites dans cette invitation. Qu'il n'y ait pas d'alcool sur la table, qu'il n'y ait pas de musique ou autre chose interdite dans notre religion. Huitièmement, parmi les choses permises, le fait d'être bienfaisant envers les voisins parmi les mécréants, car ils ont le droit du voisinage sur toi. Tu te dois d'être bienfaisant envers tes voisins, même s'ils sont mécréants. Neuvièmement, enfin, l'interdiction d'être injuste envers eux. L'interdiction d'être injuste envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 8 de Surat al-Ma'ida, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Donc, malgré que le musulman, il n'aime pas les mécréants, c'est-à-dire qu'il s'oppose à eux car ils ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Malgré cela, il ne doit pas être injuste envers eux. Il ne doit pas leur faire subir une quelconque injustice, mais il doit être équitable envers eux. Mais il doit être équitable envers eux et être juste, car ceci est plus proche de la piété. Donc ceci sont certains points qui font exception à cette règle, la règle de l'alliance et du désaveu. Et ceci fait partie des points les plus importants de notre religion. Le fait de s'allier avec les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se désavouer des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu aimes une personne, tu l'aimes parce qu'elle est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle est croyante. Et plus la personne est pieuse, et plus tu vois chez cette personne d'actes d'obéissance, des adorations, etc., plus tu vas l'aimer et plus elle va avoir une place éminente dans ton cœur. Et vice-versa, plus la personne va commettre de péchés, plus elle va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, moins tu vas l'aimer. Et donc, si elle est mécréante et qu'elle s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala, ne crois pas en Allah et ne crois pas en son messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute que le musulman ne peut pas aimer et prendre pour allié une telle personne. Ceci est donc le résumé de cette question. On verra donc la semaine prochaine la troisième partie de l'introduction dans laquelle le Cheikh rahimahullah a exposé l'importance du tawhid et le fait que c'est la plus importante chose et la plus immense chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Il répond certes aux invocations de ses serviteurs. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.